Foire, dans un rapport publié hier à Kinshasa sous la justice congolaise, deux ONG internationales, OCISA et AFRIMAP, dénoncent les attaques des autorités politiques congolaises contre le pouvoir judiciaire. Selon ces ONG, cela s'est traduit notamment par des renvois intempestifs et mise à la retraite anticipée des magistrats. Comment analyser les conclusions de ces rapports? Nous en parlons avec Maître Marcel Wechokonda. Il est un des chercheurs ayant participé à l'élaboration de ce rapport. Bonsoir Maître Marcel Wechokonda.
Bonsoir Monsieur Guy Maté.
Lui, il est au téléphone, c'est Maître Kalala Mwenampala, coordonnateur de la cellule chargée de la réforme de la justice au cabinet de la ministre de la Justice et des Droits Humains. Bonsoir Maître Kalala Mwenampala.
Bonsoir.
Et Maître Henri Wemboloa, président de l'ONG dénommée Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Bonsoir Maître Henri Wemboloa.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Chef de travaux Jean-Bernard Mibeko Missia de Mbandaka à l'Équateur. À quoi ont servi tous les fonds affectés à la réforme de la justice? Tous les changements opérés dans ce secteur ont servi tout simplement au folklore. Tant que la démocratie ne sera pas enracinée dans nos mentalités, l'état des droits sera un rêve. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Publication ce mardi à Kinshasa d'une étude d'AFRIMAP et OCISA sur le secteur de la justice et l'état des droits en RDC. Ce rapport de 160 pages dénonce les attaques des dirigeants politiques contre le pouvoir judiciaire et fustige les manques de planification et de rationalisation des aides des bailleurs de fonds dans le secteur de la justice. Au regard de tous les problèmes que connaît la justice congolaise, les auteurs de ces rapports s'interrogent sur l'existence de la volonté politique pour faire de la RDC un état des droits. Michel Kifindangoy.
Ce rapport passe au crible toutes les questions de la gestion du secteur de la justice et examine le rapport entre l'établissement de l'état des droits et la façon dont le secteur de la justice est géré. D'après ce rapport, au regard des violations de la loi et du désordre qui caractérise la gestion du secteur judiciaire, la RDC est encore loin d'être un état de droit. Maître Pascal Kambalé, directeur adjoint d'AFRIMAP.
Les magistrats ont fait l'objet d'attaques systématiques de la part de l'exécutif sous forme de renvois intempestifs, mise à la retraite anticipée des magistrats. Par exemple, le rapport montre que la Cour suprême a subi 4 modifications de leadership en 5 ans, depuis 2006. Le message que cela envoie à tous les magistrats, nous pouvons vous renvoyer en violation totale de la loi.
Pour Maître Pascal Kambalé, en partie à cause des conditions de travail quasi humiliantes, les magistrats ont souvent failli au respect de leurs devoirs de responsabilité et de bonne conduite.
De nombreux magistrats sont obligés de recourir à la corruption, faute de conditions professionnelles adéquates. Le budget est ridiculement bas, il est à moins de 1% du budget national. Il faut le porter au strict minimum à 5%.
Le rapport invite par ailleurs l'État congolais à réhabiliter sa capacité de planification et à rationaliser les interventions des bailleurs des fonds dans les secteurs de la justice.
Maître Marcel Wechokonda, vous êtes un des chercheurs ayant participé à l'élaboration de ces rapports. D'abord, qu'est-ce qui a motivé l'élaboration ainsi que la publication de ces rapports?
Merci de la question. Je pense qu'il est important de noter que ce rapport a été, comme on le disait, par deux organisations, disons deux fondations. Il s'agit de AFRIMAP, qui est un projet de Open Society, et OCISA. Alors, pour quelles raisons ils l'ont fait? Eh bien, cela rentre dans leur mandat. Parce que, comme vous le savez, à partir de la fin des années 80, les États africains se sont engagés dans la voie de l'instauration de l'État de droit. Et c'est l'ensemble des États africains pratiquement qui sont engagés dans cette dynamique. Et les associations du réseau Open Society ont jugé utile d'accompagner cette dynamique-là à travers le projet AFRIMAP. Et elles le font à travers d'abord l'évaluation des efforts que ces États fournissent pour l'instauration de l'État de droit. Et sur la base de cette évaluation, ils formulent des recommandations pour contribuer à l'enracinement de l'État de droit dans ces différents États. Et la République démocratique du Congo aujourd'hui fait suite à l'évaluation qui a déjà été faite dans d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, le Bénin, le Sénégal, le Mali et d'autres. Voilà, ça s'inscrit donc dans cette dynamique-là du travail qui est fait par AfriMap et le réseau Open Society.
Dans ces rapports, vous mettez face à face l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Et pour vous, le pouvoir judiciaire congolais est l'objet des attaques de la part des autorités politiques de la RDC. Qu'est-ce qui vous pousse à affirmer cela?
Bon, d'abord, tout à l'heure, je disais que la préoccupation fondamentale, c'est d'évaluer les efforts fournis dans le sens de l'instauration de l'État de droit. Or, comme vous le savez, l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est l'une des caractéristiques principales de l'État de droit. En réalité, l'État de droit peut être compris finalement comme un État de justice. Il n'y a pas d'État de droit là où la justice n'est pas suffisamment indépendante. Et donc, notre attention dans le cadre de cette recherche a porté particulièrement sur l'effectivité de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans notre pays. Étant entendu que la Constitution a fourni beaucoup d'efforts dans le sens de la consécration de cette indépendance, mais il était question de voir ici la portée pratique de cette indépendance consacrée par la Constitution. Et là, malheureusement, nous avons constaté un décalage entre les prévisions constitutionnelles, les prévisions légales et la réalité sur terrain. Nous avons relevé plusieurs modalités d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour ne citer que cet exemple que Maître Pascal a bien fait de relever dans la conférence de presse qu'il a animée hier, c'est que vous vous rendez compte que la Cour suprême de justice, qui est la juridiction de rang le plus élevé dans notre pays, connaît 4 premiers présidents, disons aujourd'hui en 5-6 ans. Ça veut dire en termes clairs que la longévité à la tête de la Cour suprême de justice est de près d'un an. Vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire, et cela n'est pas de nature à conforter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des différents cas d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire qui nous a été donné de constater lors de nos recherches.
Et parmi les cas que vous évoquez, vous parlez des renvois intempestifs des magistrats. Et quels sont les cas que vous connaissez?
Ben, écoutez, vous savez que nous avons enregistré plusieurs cas de révocation des magistrats, plusieurs cas de mise à la retraite anticipée de magistrats. Ceux qui peuvent avoir une bonne mémoire se souviendront qu'il y a eu révocation de près de 90 magistrats en 2008. Le 9 février 2008, si je ne m'abuse, il y a eu révocation de magistrats en 2009, et après cette date, on a enregistré d'autres cas. Vous pouvez vous imaginer que lorsqu'il y a dans un pays des révocations de magistrats, mises à la retraite en anticipé des magistrats, dans une telle fréquence, avec une telle fréquence, il y a de quoi s'inquiéter.
Et sur base de quoi vous qualifiez ces renvois d'intempestifs quand on sait que un magistrat n'est révoqué que quand il a manqué au devoir de sa charge, qui est celle de rendre justice, et cela peut partir, n'est-ce pas, d'une prise à partie?
Tout à fait. Je pense qu'il y a une mise au point à faire ici. Nous soutenons l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais il n'est pas pour nous question de fermer les yeux sur toutes les autres irrégularités que les magistrats peuvent commettre. Nous insistons sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est vrai, mais nous ajoutons que cette indépendance du pouvoir judiciaire doit être contrebalancée par leurs responsabilités, notamment en matière disciplinaire. Mais la seule chose sur laquelle nous insistons par rapport à la responsabilité des magistrats, c'est qu'elle doit se faire dans le respect des de la loi, dans le respect de la Constitution. Or, comme vous le savez, dans les cas que nous venions d'invoquer tout à l'heure, il a été relevé que la Constitution n'avait pas été respectée comme il se doit, la loi n'avait pas été respectée comme il se doit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre de magistrats révoqués ont pris l'initiative de saisir la Cour suprême de justice en annulation pour inconstitutionnalité de loi portant leur révocation et leur mise à la retraite.
Et donc vous avez des informations selon lesquelles la loi sur la procédure devant la Cour suprême de justice n'a pas été respectée?
La loi, c'est plutôt de la Constitution et de la loi portant statut de magistrat qu'il s'agit, parce que cette loi, la loi portant statut de magistrat du 10 octobre 2006, c'est elle qui organise la procédure disciplinaire applicable aux magistrats. Et aussi la gestion de la carrière de la magistrat. Elle détermine les autorités compétentes en matière disciplinaire, les peines prévues en la matière, mais également la procédure qui doit être suivie à cet effet.
Merci, Maître Kalala Mwenampala. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule chargée de la réforme de la justice au cabinet de la ministre de la Justice et des Droits Humains. Quelle analyse vous faites des conclusions qui découlent de ces rapports?
Bon, mais écoutez, j'ai suivi le confrère Tchekonda, j'ai suivi le premier intervenant, qui sont en train de fustiger justement certains comportements, s'ils sont vrais, de la part des gouvernants. Mais je dois vite rectifier pour que cela ne doit pas être pris en considération parce que ça semble ne pas être objectif. Je prends le premier point, celui du changement de plusieurs premiers présidents en 4 ans ou en 2 ans, je ne sais pas. Je pense que la matière relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République lorsque on estime que la justice est mal rendue dans le pays, et dans le cas d'espèce, tout le monde sait que la justice n'est pas bien rendue par les magistrats à 90%. Il y a beaucoup de fausses expositions des faits, de fausses expositions des lois, de tricheries dans les décisions judiciaires, et le président de la République est saisi presque chaque jour des lettres de plusieurs citoyens qui se plaignent du mauvais fonctionnement de la justice à travers les greffiers, les huissiers, peut-être même les avocats. Et le fonctionnement de certaines institutions, il en a la responsabilité. Et lorsqu'il sent qu'il y a lieu de changer telle personne à la tête, il le fait. Là, je ne pense pas qu'il y a un problème. S'agissant des mesures qui sont prises, tantôt de révocation, tantôt de retraite que vous estimez être intempestive, disons les mesures intempestives, je peux dire que les magistrats, d'abord ceux qui sont retraités, il s'agit d'une mesure qui permet à une personne d'aller se reposer après avoir rendu plusieurs raisons. Donc c'est pas pratiquement un préjudice parce que c'est prévu par les statuts. Et
Mais lorsque la retraite est anticipée, par exemple on met la retraite à un magistrat qui n'a que 50 ans.
Oui, et on lui permet d'aller se reposer, peut-être que il peut être utile à autre chose. C'est pas une sanction. La retraite n'est pas une sanction. Je ne sais pas pourquoi on doit la voir sous forme de sanction si elle est prise sur proposition du conseil judiciaire, plutôt du conseil supérieur de la magistrature. La révocation qui est une sanction, si vous réfléchissez de façon tout à fait calme, vous avez constaté que les ordonnances prises par le président de la République se réfèrent toujours à la vie des pairs, des magistrats qui ont été élus par d'autres magistrats, et les ordonnances disent toujours vue sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature qui est composé des magistrats.
Oui,
et alors, à ce moment-là, il y a, le président de la République signe des ordonnances de révocation de pour ceux qui sont indélicats, et des retraites. Donc, c'est toujours sur proposition d'autres magistrats.
Maître?
Oui.
Depuis un moment, chaque fois qu'il y a une nouvelle mise en place dans la magistrature, ouais, certaines ONG de défense des droits humains ne manquent pas de dénoncer le fait que beaucoup de magistrats sont révoqués pour une prise à partie, alors que cela n'est pas prévu par les textes.
Mais non, mais la prise à partie, c'est une constate, une indélicatesse. Une indélicatesse et le sentiment... Dans l'exercice de la profession de magistrat, vous savez que c'est la plus grande, une des plus grandes et graves responsabilités, plutôt professions juridiques, c'est le magistrat qui doit se conformer à la loi dans tout ce qu'il fait. Et son serment le dit, et les autres recommandations du chef de l'État également le disent plus clairement, et il y a eu même Monseigneur Monseigneur qui a eu à répéter publiquement au stade en disant aux Alizouzi Teleme Ongenge Namwinda Mwakristu Kata Makamondenge Mibeko Mitindi. Donc la conformité à la loi. Et le chef de l'État n'a cessé de dire aux magistrats ceci: soyez des magistrats dignes, intègres, sans chapelle tribale ou politique, respectueux des principes moraux, éthiques et déontologiques.
Oui, vous avez évoqué, vous avez évoqué
des recommandations. Et dans la pratique, tout cela est violé.
Maître, vous avez évoqué la conformité à la loi. Oui. Ces ONG dénoncent le fait que des magistrats sont révoqués, n'est-ce pas, sans que la loi ne soit respectée, parce que ils sont révoqués alors qu'ils n'ont jamais été entendus.
Mais qui doit les entendre? Ce sont leurs pairs. Et s'ils ne sont pas entendus, et s'ils sont proposés à la révocation, ce sont leurs pairs qui les proposent. Et le président de la République, lui, reçoit les éléments de la part d'autres magistrats. Donc là, je pense que si on doit faire des reproches, on doit faire des reproches aux magistrats, qui pose justement des actes qui ne sont pas conformes, parce qu'ils proposent à l'évocation des gens, s'ils ne doivent pas être révoqués, ils sont révoqués, s'ils ne doivent pas être... Il y a un filtrage qui se fait au niveau de la magistrature. Et là, il a déjà été dit à tous ces magistrats ceci: soyez dignes et intègres. Donc proposez les choses après avoir, sans chapelle tribale ou politique. Ce sont
Merci.
Ceux qui proposent.
Merci, maître.
Donc, s'il y a des reproches à faire, c'est à ce niveau-là, au niveau de la moralité de certains, qu'il faut justement qui présentent dans le signataire du président de la République des ordonnances qui sont très souvent préparées à ce niveau-là, et c'est signé. Vous avez parlé de l'indépendance de la magistrature qui est souvent perturbée. Mais le magistrat a l'indépendance, il a une conscience. Il doit résister, et on a cessé de répéter, résister aux influences.
Merci, maître. Merci. Maître Henri Wemboloa, vous êtes président de l'ONG dénommée Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Votre analyse par rapport aux conclusions contenues dans ces rapports.
Merci, merci pour l'invitation, merci pour la question. Le rapport de AFRIMAP et le rapport de OCISA est une mine d'informations qui peut aujourd'hui aider notre gouvernement à améliorer le secteur de la justice. Et lorsque nous essayons de l'analyser, nous avons constaté que les chercheurs ont mis en avant quelques éléments très importants qui permettraient aujourd'hui aux magistrats de pouvoir mieux faire son travail. Notamment, ils ont commencé par insister sur les normes internationales relatives aux droits de l'homme qui sont déjà adoptés, qui sont déjà ratifiés par notre pays et qui devraient être mis en application. Mais malheureusement,
dans le concret, cela n'est pas fait. Et de deux, je constate que le rapport relève quelques défaillances, quelques déficits par rapport au mécanisme de sanctions au sein de l'appareil judiciaire. Il est vrai, comme nous venons de le suivre de la part de Maître Mwenampala, toute la population congolaise aujourd'hui, lorsqu'on parle de magistrats, lorsqu'on parle de la justice, c'est tout le monde qui dit « ça ne va pas ». Et c'est aussi vrai que le président constate et il suit ce que dit la population, « ça ne va pas ». Mais la justice, c'est un droit fondamental pour tout citoyen, toute citoyenne dans son pays. Et il faut prendre les garde-fous pour qu'elle soit bien rendue.
Mais c'est pourquoi il faut des fois sanctionner.
C'est pourquoi il faut sanctionner. Mais là où nous disons, nous pouvons ajouter un autre élément important, c'est qu'il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire en soi, qui est aussi un droit fondamental pour tout citoyen. Parce que s'il n'y a pas indépendance, et là il y a un laisser-aller. Mais lorsque l'indépendance est assurée, comme il se doit, c'est alors que la population se retrouve avec une bonne justice. Et à propos, quand on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est toute institution, toute personne qui doit protéger cette indépendance. Or, nous constatons dans la pratique qu'il y a eu quelquefois des révocations qui n'ont pas suivi la voie normale, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature qui propose et puis on révoque. Et si les ONG se lèvent souvent pour dire que la procédure n'est pas suivie, c'est par rapport à cette question. On ne peut pas dénier au chef de l'État le pouvoir de sanctionner, parce qu'il est le garant, n'est-ce pas, du bon fonctionnement de toutes les institutions, mais il appartient à tout autre service qui doit aider le chef de l'État à présenter les choses et de conseils comme il se doit. Sinon, ne pas induire le chef de l'État en erreur. On a parlé ici, par exemple, du cas de la retraite anticipée. Une retraite anticipée, pour quelqu'un qui peut-être vient de commencer sa carrière, il a 5 ans, 10 ans, et pour des raisons ou d'autres, on le propose à la révocation. Là, disons que ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ceux qui proposent de la sorte, ils induisent le chef de l'État en erreur. Et les ONG qui vont se lever pour dire que ce n'est pas bon ce qui est fait, ce n'est que normal et
donc,
ce n'est que justice.
Le problème est posé en amont et pas en aval.
Le problème... En amont et en aval, parce que tout doit être préparé. Mais nous insistons sur le fait que c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qu'on doit bien faire le travail, qui doit respecter tout ce qu'il faut faire. S'il y a des sanctions, des personnes à sanctionner, on les sanctionne. Mais si on ne doit pas sanctionner et que l'on présente un dossier d'un monsieur qui n'est pas fautif devant le chef de l'État pour qu'il soit sanctionné pour telle ou telle autre raison, là, il y a une défaillance, il faut le reconnaître.
Et donc là, vous semblez remettre en cause le travail du Conseil supérieur de la magistrature.
Oui, parce que nous disons que Maître Mwenampala a raison en disant que le chef de l'État, il est là pour signer parce qu'un travail a été fait en amont. Et c'est pour cette raison que nous disons que lorsque les ONG se disent que la procédure n'a pas été suivie, c'est qu'il y a un problème et il faut rectifier, il faut suivre cette procédure. Vous le savez bien, à un certain moment, il y a eu 315 magistrats qui ont été révoqués dans ce pays. Et devant les instances internationales, on a dit cette révocation n'était pas bonne. Devant le comité des droits de l'homme, je pense, oui, le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et avec la bénédiction de l'accord de Sun City, aujourd'hui, ces 315 magistrats sont reversés, sont en train de travailler. Vous voyez là qu'il y a un problème de procédure qu'il faut respecter et il est normal, lorsque cette procédure n'est pas respectée, on peut dire là, ça ne va pas.
Là, vous avez évoqué plutôt les conseils supérieurs de la magistrature. Nulle part, vous n'avez évoqué les pouvoirs exécutifs. Mais pourquoi, à votre avis, aussi ça, dans ces rapports-là, charge les pouvoirs exécutifs?
Oui, le pouvoir exécutif a une part de responsabilité. Parce que, à un certain moment, c'est le pouvoir exécutif même qui a fait des propositions pour des révocations. Alors que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui devrait en principe le faire. Ça, c'est un problème.
Ah bon? Vous avez des informations, des éléments sur lesquels vous étayez ces affirmations-là?
Oui, il faut bien lire le rapport. Et heureusement que nous avons quelqu'un qui a participé à la rédaction de ce rapport. Nous avons lu et effectivement, à un certain moment, c'est le gouvernement qui a fait des propositions pour révoquer.
Et donc le gouvernement a contourné le Conseil supérieur de la magistrature?
Oui,
lorsque... Il a contourné les conseils supérieurs de la magistrature.
Oui. Le gouvernement a fait des propositions et ce sont ces propositions-là qui ont été entérinées et on a révoqué. Et là, nous disons que les défenseurs des droits de l'homme qui ont cette charge de défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire, ils peuvent dire, nous sommes dans un état de droit, comme l'article 1er de la Constitution le dit, qu'on respecte la loi, qu'on respecte la procédure.
Oui, Maître Marcel Otokonda, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu, au site Kivu.
Je suis Franklin Matumaini de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ces ONG posent un vrai problème auquel elles ont en même temps une réponse. Car si la RDC est encore loin d'être un état de droit, je ne vois comment le gouvernement peut s'empêcher de mettre les magistrats dans cette situation qui lui est bénéfique. Je pense qu'il appartient aux magistrats seuls d'arracher leur liberté et de contribuer à l'instauration d'un état de droit en RDC. Car partout la politique cherche toujours à s'affirmer sur la justice.
Oui, maître, pourquoi vous semblez vous étonner? L'état des droits au Congo n'est qu'un chantier qui n'est pas encore achevé.
Tout à fait. D'abord, il y a une première chose qui nous importe de relever ici, c'est que l'indépendance du pouvoir judiciaire, heureusement, maître Henri l'a souligné, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est un droit de l'homme comme tous les autres. Et c'est un droit extrêmement important parce que de son exercice dépend, de son respect dépend l'exercice de beaucoup d'autres droits. Il faut d'abord commencer par faire cette première observation. S'agissant d'un droit de l'homme, au même titre que tous les autres, eh bien, il doit être défendu par tout le monde. C'est à ce titre-là que les associations de défense des droits de l'homme sont regardantes sur, le respect qui est dû à ce droit-là, autant qu'ils le font pour les autres droits. Et donc, si on envisage l'indépendance du pouvoir judiciaire dans cette perspective-là, il faut comprendre que ce n'est pas seulement une affaire de magistrats. Ce n'est pas, nous ne sommes pas ici en présence d'un privilège des magistrats. Nous sommes plutôt en présence d'un droit de l'homme. Ça veut donc dire que pour que l'indépendance du pouvoir judiciaire devienne effective dans notre pays, il est vrai que les magistrats ont leur part de responsabilité, mais c'est également la responsabilité de tous les autres Congolais. Parce que tant que nous n'avons pas une justice indépendante, eh bien, qui en font les frais, c'est nous-mêmes. Ce sont les Congolais, ce sont les Congolaises qui en font les frais. Ils ont intérêt à exiger à ce que l'indépendance du pouvoir judiciaire soit effective, parce que ce n'est qu'à cette condition-là que tous les autres droits de l'homme peuvent être respectés.
Alors, dans ce rapport, vous dites, en 5 ans, la Cour suprême de justice a connu 4 différents présidents. Et là, vous affirmez que ces différents changements est un message à l'endroit de tous les magistrats, un message qui veut dire que nous pouvons vous renvoyer en violation totale de la loi. Ne craignez-vous pas de tomber dans des interprétations erronées?
D'abord, vous savez, l'administration de la justice est assez exigeante. Elle demande à ce qu'un certain nombre de conditions soient réunies. On ne dit pas le droit lorsque les conditions de sérénité nécessaires ne sont pas réunies. Ok? Et donc, un magistrat qui sait qu'il est assis sur un siège éjectable, qui peut être révoqué à tout moment, vous ne pouvez pas lui demander de dire le droit, de dire le droit dans les conditions requises. Il va manquer dans son chef la sérénité voulue pour pouvoir dire le droit comme il se doit.
Alors, donc, Maître Kalala a dit que c'est la relevée des pouvoirs discrétionnaires.
Il faut faire attention. Nous ne sommes pas ici devant un pouvoir discrétionnaire parce que Maître Kalala l'a lui-même reconnu. Ici, il s'agit d'un pouvoir, on peut dire, partagé entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République. Étant donné que c'est au Conseil supérieur de la magistrature, à travers les chambres, à travers l'Assemblée générale, qu'il appartient de formuler les propositions de nomination, de révocation, mise à la retraite des magistrats, et le président de la République formalise cette décision, en tire les conséquences à travers une ordonnance. Alors, il y a donc une division de travail entre les deux institutions. Excusez-moi d'insister sur cet élément. D'où vient le problème aujourd'hui? C'est que les ordonnances vous disent sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il se fait que les magistrats, en tout cas ceux qui participent aux réunions, aux assemblées générales, ne reconnaissent pas
que ces propositions-là aient été formulées à cette occasion. Prenez, parce que, et d'ailleurs, c'est, pour répondre à une question, de question que vous avez posée à Maître Henri, les révocations de 2008, elles sont intervenues avant l'installation du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, elles l'étaient non pas sur proposition du président du Conseil supérieur de la magistrature, comme le veut la Constitution en ses articles 82 et 152, mais plutôt sur proposition du ministre de la Justice. Ça pose problème. Maintenant, les autres révocations qui ont suivi, évidemment, il est dit que elles sont intervenues sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, mais le problème, c'est que les magistrats, en tout cas certains magistrats qui ont participé à ces assemblées générales, ne reconnaissent pas que ces propositions ont été formulées. Ça pose un problème de transparence dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le problème aurait pu être résolu si le Conseil supérieur de la magistrature publiait ses rapports annuel d'activité. C'est une obligation qui lui incombe au terme de la loi. Or, depuis 2008, pas un seul rapport du Conseil supérieur de la magistrature a été publié, et donc ça ne peut qu'alimenter toutes ces contestations qui entourent les ordonnances de révocation ou de mise à la retraite des magistrats.
Et donc, vous pensez qu'il y a opacité ?
Oui, on peut considérer que il y a un déficit d'information dans le chef du Conseil supérieur de la magistrature. Je le dis pas pour lui jeter la pierre, je comprends dans quelles conditions il travaille. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas doté d'un budget suffisant pour pouvoir assumer ses obligations et exercer ses attributions comme il se doit.
Merci, Maître Kalala Monampala. On prend pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kivu. Quoique quelque peu excessive, les conclusions du rapport de ces ONG sur la justice en RDC sont vraies. Elles dénoncent une réalité de la magistrature congolaise, l'absence de son indépendance dans l'exercice de ses fonctions consécutives aux interférences politiques et politiciennes par rapport à certains dossiers judiciaires.
Maître, pourquoi ne reconnaissez-vous pas les interférences des politiques dans la justice?
Je vous remercie beaucoup. Les interférences, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il n'y a que ça, parce que l'indépendance, c'est un état d'esprit et des attitudes lorsque on délibère dans un dossier. C'est à ce niveau-là qu'il faut être indépendant par rapport à tout le monde. Il n'y a pas seulement que l'exécutif. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les collègues, il y a les chefs de juridiction, il y a les magistrats entre eux. Il faut être indépendant à ce niveau-là déjà. Et parfois même lorsqu'on vous dit que il y a telle autorité qui est intervenue, parfois c'est des mensonges. On veut seulement se couvrir pour pouvoir maquiller ce que l'on a fait de mal et on jette la pierre sur l'autorité, et vous n'aurez même pas l'occasion de vérifier.
Et donc,
l'indépendance de la magistrature existe, mais il y a peu d'hommes qui peuvent assumer leur indépendance. C'est ça tout le problème. Il y a un problème d'hommes,
oui,
que ce soit au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un problème de moralité. Il y a un problème de résistance morale à des chapelles que, comme dit le chef de l'État, des chapelles tribales, des chapelles politiques, les gens se laissent influencer facilement parce qu'ils ne sont pas suffisamment forts mentalement. Alors, là, je pense que l'indépendance, c'est un problème d'homme. C'est un problème de la personne qui a reçu le pouvoir judiciaire de se conformer à la loi. Et la loi, la Constitution elle-même dit que le magistrat est sous l'autorité de la seule loi. Si il arrive, lui, magistrat, à se départir de cette autorité uniquement de la loi, c'est qu'il n'est pas un magistrat dans le sens plénier du mot. Et l'indépendance, elle est là, elle est garantie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, voilà, moi, il y a tel.
Bon. Maître, alors, oui. Vous voulez dire que l'indépendance doit être l'effet, n'est-ce pas, de tout le monde, hein? C'est, il n'y a pas que l'exécutif qui doit garantir cette indépendance de la justice, il y a aussi les magistrats eux-mêmes et aussi la société.
Mais absolument, l'indépendance est un droit qui vous est donné par la Constitution, également les lois et votre serment. Alors, si une personne, autre que le serment, autre que, je ne sais pas, la Constitution vient vous dire condamner telle personne ou bien accepter que telle personne est propriétaire d'une maison alors qu'il ne l'est pas, mais vous n'êtes pas indépendant de votre conscience, vous avez violé le serment. Merci. Même si vous l'avez très souvent, on a prêté le serment devant la cour ou devant le chef de l'État, dans ce cas-là, lorsque vous faites le contraire, vous n'êtes pas indépendant par rapport au parti.
Merci, Maître Henri Ouemboulois. L'indépendance de la justice doit être garantie par tous. Et pourquoi, lorsque vous vous rendez compte que cette indépendance pose problème, vous avez tendance à vous attaquer au gouvernement?
Non, il faut corriger quelque chose pour dire que l'indépendance, n'est-ce pas, de la justice, c'est un droit, comme on l'a dit. Et lorsque cette indépendance n'est pas assurée, nous avons à tourner notre regard vers toutes les institutions, entre autres le gouvernement, qui a tout le pouvoir. Ici, lorsque je prends au mot ce que Maître Monampal a dit à propos de l'indépendance de la magistrature, tout comme on peut dire l'indépendance des avocats. C'est une indépendance, un état d'esprit, la conscience professionnelle même de l'agent. Et là, je salue ici les observations pertinentes du professeur Nyabirungu qui, lorsqu'on a présenté le rapport, il a apprécié, il a dit qu'il y a un effort à être fourni par les magistrats eux-mêmes. Mais nous voulons insister sur une chose. Il y a à faire une différence entre l'indépendance du magistrat et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et nous voulons insister sur ce point-là. Et je crois que Maître Menapala ne va pas en disconvenir.
Et la différence, c'est à quel
niveau? Oui, c'est à quel niveau? C'est par rapport à un cas, le cadre juridique pour assurer cette indépendance du magistrat. Est-il approprié? On parle par exemple des conditions du magistrat. Vous ne direz pas que un magistrat qui manque de moyens pour faire son travail normalement, et il a toute la force, il a toute la conscience de résister. C'est un problème. C'est vrai qu'il y en a qui résistent, il faut les saluer, il faut des congratulations. Mais les conditions doivent suivre. C'est à ce niveau que nous disons le gouvernement doit faire quelque chose pour placer le magistrat dans ce cadre. D'abord, des moyens. Il y a le cadre juridique. Et à propos de ce cadre juridique, ici, nous disons que parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire sous-entend aussi l'autonomie financière. Mais est-ce que cette autonomie financière est assurée? C'est un problème. En principe, les lois prévoient que Le pouvoir judiciaire, qui est un des pouvoirs comme le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il doit gérer son propre budget. Est-ce qu'il en est le cas? Je pense que tous ceux qui sont en train de suivre, tous ceux qui ont des conseils à donner pour que les choses évoluent, c'est à ce niveau qu'il faudra marteler pour dire et donner des conseils que l'on arrive à donner donc l'autonomie financière au Conseil supérieur de la magistrature.
Les pouvoirs judiciaires ne bénéficient pas de l'autonomie financière comme les autres pouvoirs, les législatifs, les exécutifs.
Oui, il y a un budget qui est prévu pour le Conseil supérieur de la magistrature, mais apparemment ce budget-là n'est pas géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui fait que aujourd'hui, on va déplorer. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas de locaux. Aujourd'hui, quand on parle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, nous voyons les grands bâtiments qui sont là.
Et ce budget, géré par qui?
Ce budget. Oh oui, ce budget est co-géré, je peux dire, entre le gouvernement et le Conseil, qui n'a pas tous les moyens nécessaires qui prévus. Donc, il y a réellement un problème à ce niveau-là.
Maître Henri, il y a M. Tsinga Oudjou qui vient de publier une réflexion sur la problématique de la justice en RDC. Dans laquelle il cite certains facteurs qui expliquent les dysfonctionnements de la justice dans ces pays. C'est notamment la perception que la société a sur le rôle et la place du pouvoir judiciaire. L'attention, c'est ce qu'il dit, l'attention et les regards de beaucoup de Congolais sont focalisés sur les institutions politiques que sont le président de la République, le Parlement et les gouvernements. Et ceci n'explique pas, à votre avis, la manière dont les décideurs politiques gèrent la justice dans ces pays. La perception que la société a sur le pouvoir judiciaire.
Justement, c'est là le problème. Nous défendons l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir comme le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il appartient à tous les autres pouvoirs de voir dans quelle mesure dire, placer ce pouvoir à un certain niveau. Bien sûr que cela peut faire des craintes, parce qu'on sait que dès l'instant que le pouvoir judiciaire a toute la force, eh bien, un ministre peut être arrêté aujourd'hui ou demain. Un député peut être arrêté aujourd'hui ou demain. Donc, ça peut être des craintes, mais ces craintes-là ne sont pas vraiment à prendre en considération au-delà de l'intérêt général. Dans tout pays, il y a... Donc, pour parler de l'état de droit, c'est trois pouvoirs. Et donc, cette réflexion-là, nous trouvons qu'elle est opportune, elle explique bien les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, on se dit, quand on a même un problème, on peut recourir auprès des magistrats, même des généraux, qui peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais dire, par moment, on peut trop critiquer les magistrats. Ils rendent parfois des décisions. Et ces décisions ne sont pas appliquées. Pourquoi ne sont pas appliqués? Parce qu'il y a tel ou tel autre qui intervient, qui interfère pour qu'il n'y ait pas exécution. Là, ce sont des véritables problèmes structurels. Et ça fait un problème par rapport à l'indépendance du pouvoir judiciaire et non pas l'indépendance des magistrats.
Merci. Que faut-il pour que la justice joue effectivement son rôle en République démocratique du Congo? Maître Marcel Wetchokonda, je rappelle que vous êtes un des chercheurs ayant participé à l'élaboration de ces rapports. Parmi les recommandations contenues dans ces rapports, vous demandez que l'on puisse allouer à la justice une part conséquente du budget de l'État qui répond aux besoins réels de ce secteur.
Oui, c'est vrai. Parce qu'au fait, l'une des innovations de la Constitution qui nous régit aujourd'hui, c'est l'institution de la notion de budget du pouvoir judiciaire. Et pourquoi? Parce que lorsque vous lisez cette Constitution et vous lisez la loi pour organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'on est parti de l'idée selon laquelle, pour conforter l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses différentes dimensions, qu'il s'agisse de l'indépendance institutionnelle, l'indépendance personnelle et tout le reste, il fallait qu'elle soit appuyée par un budget conséquent. Or, aujourd'hui, le budget alloué au pouvoir judiciaire, non seulement il est modique, mais en plus son taux d'exécution est des plus bas. Et donc, nous pensons que si on veut vraiment réhabiliter le pouvoir judiciaire congolais aujourd'hui, l'une des choses qu'on devrait faire en priorité, c'est de doter le pouvoir judiciaire d'un budget conséquent. Pas seulement en termes de rémunération, mais également en termes de frais de fonctionnement. Parce que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est justement celui relatif aux frais de fonctionnement du pouvoir judiciaire.
Merci. Maître Kalala Mounampala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule chargée de la réforme de la justice au cabinet de la ministre de la Justice et des Droits humains. Et où en est-on avec la réforme de la justice?
Mais je crois que on est en train de sillonner les cours des tribunaux et on fait attention au comportement des acteurs de la justice, c'est-à-dire les magistrats d'abord, du parquet, comme ceux du siège, les avocats, parce qu'il y a une expression poétique du premier président de la cour d'appel ici, que j'ai apprécié lorsqu'il a dit que les avocats et les magistrats sont comme les deux paires de souliers qui doivent justement aller ensemble. Mais
Allô, maître.
Oui.
Oui, j'ai demandé où en est-on, parce qu'en fait c'est vous qui pilotez la structure qui est chargée de la réforme au ministère de la Justice. Où en est-on avec la réforme de la justice, le processus de réforme de la justice en RDC?
Oui. Nous sommes encore en train de récolter les éléments. On ne doit pas être pressé parce que le mal est tellement profond. Il faut d'abord l'identifier correctement là où il est, il persiste, et proposer des solutions. Et je pense même que ici, en ce qui me concerne, je pense même à quelque chose comme les concertations nationales judiciaires.
Merci.
Où il faudra magistrats, avocats et tout le monde, et même ceux qu'on accuse de faire les influences, et ceux qui ne donnent pas le budget, c'est-à-dire plutôt...
Merci maître, nous sommes arrivés à la fin de l'émission.
Qu'ils se mettent ensemble.
Maître, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot pour conclure.
Pour conclure, je pense que magistrats et avocats doivent respecter leur serment, leur engagement, ceux qui
Merci.
Le sont à la Cour suprême.
Merci. Donc, maître Henri Ouembolois, que faut-il pour que la justice joue son rôle? Et ça sera votre mot de conclusion.
Oui, dans notre pays, pour que la justice joue son rôle, nous devons tous accorder de l'importance, de la valeur voulue, afin que le pouvoir judiciaire soit réellement indépendant et qu'il puisse servir la population. On dit le pouvoir judiciaire est le garant des droits de l'homme et qu'on en arrive là. Plutôt que l'on voit le magistrat ou le pouvoir judiciaire pour garantir d'autres institutions et aux dépens de la population. Donc l'éducation aux droits de l'homme aussi est très importante.
Merci, maître Marcel Mosongo.
Ben écoutez, je pense qu'il est important que des ajustements soient introduits dans la justice, dans le pouvoir judiciaire, dans tous ces aspects, qu'il s'agisse des infrastructures, des acteurs, des textes.
Merci, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi du programme sur Radio Capi.